journal des auditeurs avec Nadir Djennad sur Africa numéro 1. Africa.
Bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. La parole est à vous pendant 30 minutes sur la radio africaine. Aujourd'hui, mardi 14 août 2018, dans le JDA, présidentielle au Zimbabwe et au Mali. Pourquoi les résultats sont contestés? L'élection présidentielle a été libre, juste et crédible. C'est ce qu'a déclaré il y a quelques jours le président élu au Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa. Il répond ainsi aux accusations de fraude de l'opposition, notamment de son rival Nelson Chamisa. Quant au Mali, Soumaïla Cissé rejette par avance les résultats de la présidentielle. Nous en parlerons avec Mathias Umke, politologue, administrateur du programme de gouvernance politique au sein de la Fondation Oziwa. Pour nous donner votre avis sur le sujet, posez des questions à notre invité. Appelez-nous maintenant au 01 55 07 58 00. Le 01 55 07 58 00. Mais avant de s'intéresser à ce sujet, on écoute vos messages laissés sur le répondeur d'Africa numéro 1.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Bonjour les Africains. Bonjour Africa numéro 1. Hier, lundi 13 août, il y a un Congolais qui a réagi à la sortie de Simone Gbagbo en disant que Madame Simone Gbagbo doit se cacher pour aller rentrer chez elle à la maison sans faire de bruit. Ce Congolais, il se trompe. Nous sommes en démocratie, mais ce qu'il dit là, c'est la dictature. C'est la dictature. Madame Simone Gbagbo, elle est aimée en Côte d'Ivoire, à gauche, à droite, au nord, au sud, partout, elle est aimée. Mais ce monsieur, ce Congolais-là, peut-être dans les années, il n'était pas encore né. Nelson Mandela a fait 27 ans de prison à sa sortie. Le monde était en joie de Nelson Mandela. Le monde était en joie de Nelson Mandela. Dans ce Congolais-là, il faudrait qu'il sache que nous sommes en démocratie, mais pas en dictature.
Salut, amis auditeurs, c'est Marco. Alors, j'ai une petite question pour le président Georges Weah. Alors, le dimanche dernier, on a vu son fils marquer son premier but en championnat de France, ce qui nous a beaucoup réjouis. Alors, moi, la question que je veux poser au président Georges Weah, s'il arrivait que son fils était sollicité par la Fédération française de football pour porter les maillots et pour porter les couleurs de l'équipe de France. Alors, lui, en tant que président du Libéria, quelle serait sa position? Et là, on parle de défendre les couleurs d'un pays. Et donc, est-ce qu'il se verrait, il verrait son fils porter les couleurs bleu, blanc, rouge de l'équipe de France au détriment de lui, son pays, le Libéria, qui n'a pas une grosse équipe, une grosse nation, qui n'a pas une grosse nation de football. Alors, monsieur le président Georges Weah, alors que ferez-vous? Est-ce que laisserez-vous votre fils porter les couleurs de l'équipe de France, sachant que vous êtes le président du Libéria? Voilà, c'est la petite question que je souhaiterais vous poser. Merci beaucoup, c'est Marco. Au revoir.
Bonjour, amis des IDEA congolais et congolaises de la RDC. Soyons prudents suite à des pressions internationales et nationales. Kabila ne sera pas candidat. Politiciens et politiciennes de la RDC, le pays est dans l'occupation d'où nous sommes infiltrés depuis l'arrivée de Afdel. Alors, dans 141 jours, c'est le départ de Kabila. Il ne sera pas sénateur à vie au Congo, d'après le peuple congolais. Cyril Ramaphosa, déjà riche sur le sol, est là pour piller, car ils ont signé des contrats bidons. Mais tout ça sera contrat à revoir. Donc, soyons prudents. Bye bye Kabila. Merci, c'est Fumumata. Ciao.
Bonjour Africa numéro 1. Je lance un appel à les peuples maliens et les communautés internationales de prendre leur destin en main. Les élections de dimanche passé, Ibrahim Boubacar Keïta, il a perdu. On a vu la présidence de 2013, Soumaïla Cissé, honorable Soumaïla Cissé, qui a pris sa famille depuis à 20h, d'aller féliciter Ibrahim Boubacar Keïta chez lui à la maison. Pour qu'à cette année, à 22h, ils n'ont pas de résultat des élections. Aujourd'hui, on est mardi, il n'y a pas de résultat. Ibrahim Boubacar Keïta, il devrait prendre sa famille, aller chez Soumaïla Cissé depuis la nuit de dimanche à 20h. S'il n'a pas eu de temps à 20h, il devrait partir à 23h ou à 22h. Les peuples maliens ne vont pas laisser, ils ont leur victoire volée avec Ibrahim Boubacar Keïta, un président corrompu. Ibrahim Boubacar Keïta, il ne va plus nous diriger dans 5 ans encore. Ça suffit. Les 5 ans passés, on a eu toutes les misères. Ibrahim Boubacar a donné toutes les misères à les peuples maliens. Donc on ne va pas laisser encore 5 ans à Ibrahim Boubacar Keïta. Ibrahim Boubacar Keïta de laisser le pouvoir. C'est Soumala qui a gagné. Chacun avait ses résultats à 20h, à 22h. Tout le monde sait que qui a gagné. J'ai dit les peuples maliens, sortez, prenez votre destin en main. Merci, Africa numéro 1, que Dieu bénisse Mali et l'Afrique.
Bonjour, Africa numéro 1. Bonjour à tous les Africains. J'appelle à propos de l'élection du Mali. Je conseille à tous les Maliens, à tous les Africains, à tous les peuples qu'il y aura des élections. Acceptons le vainqueur. Ne nous tuons plus. On a des exemples de la Côte d'Ivoire. On a des exemples de beaucoup de pays. Moi, je suis malien, mais je dis à tous les Maliens, quel qu'en soit Ibeka ou Soumaïla, dès qu'ils annoncent le vainqueur, qu'on accepte. Parce qu'il n'y aura pas d'autre solution. Je ne veux pas que le peuple se tue à cause de 2 personnes. S'il vous plaît, les Maliens, s'il vous plaît, acceptons. Qui c'est ce soir pour éviter le massacre, pour éviter la mort? Merci à toutes les Africains. Merci.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci pour vos messages. Vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 01 55 07 58 00, le 01 55 07 58 00. Aujourd'hui, dans le JDA, on s'intéresse au déroulement des élections présidentielles en Afrique. Il y a eu ces dernières semaines 2 scrutins dont les résultats sont contestés. Au Mali, les résultats du 2e tour de la présidentielle ne sont pas encore connus, mais ils sont déjà contestés. Hier, devant ses partisans, Soumaïla Cissé a annoncé son intention de rejeter les résultats avant même leur publication, et a appelé les Maliens à se mobiliser. Au Zimbabwe, Nelson Chamisa, le leader du mouvement pour le changement démocratique, crie à la fraude et vient de déposer un recours contre l'élection d'Emerson de Mnangagwa. Ce dernier devait être investi dimanche, mais il devra attendre l'avis du Conseil constitutionnel. Nous avons en ligne depuis Dakar Mathias Umke. Bonjour. Allô? Nous allons rappeler Mathias Umke d'ici quelques minutes. Le 01 55 07 58 00. On s'intéresse au déroulement des élections en Afrique. Il y a eu ces dernières semaines 2 scrutins dont les résultats sont contestés. Au Mali, les résultats du 2e tour ne sont pas encore connus, mais ils sont déjà contestés. Hier, devant ses partisans, Soumaïla Cissé a annoncé son intention de rejeter les résultats avant même leur publication. Au Zimbabwe, Nelson Chamisa, le leader du mouvement pour le changement démocratique, crie à la fraude et vient de déposer un recours contre l'élection présidentielle. Notre invité Mathias Umke, qui est politologue, chercheur à l'Institut, à la Fondation Oziwa. Nous allons rappeler d'ici quelques minutes. Ah, il est déjà en ligne. Mathias Umke, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'intervenir dans le journal des auditeurs. Vous êtes politologue, administrateur du programme de gouvernance politique au sein de la Fondation Oziwa. Merci beaucoup. Est-ce qu'à votre avis, Nelson Chamisa et Soumaïla Cissé ont raison de contester les élections dans leur pays, ou s'agit-il d'une stratégie d'opposant?
Non, disons que c'est très difficile dans des cas spécifiques de dire s'ils ont raison de contester ou non. Par contre, lorsqu'on regarde à l'échelle de l'Afrique, on peut parcourir un certain nombre de raisons qui expliquent que, par exemple, les perdants, de façon, je vais mettre en grippe facile, contestent les résultats.
Oui.
Et, par exemple, l'une des raisons, c'est que, comme vous le savez, techniquement, nous nous améliorons progressivement dans la maîtrise d'organisation technique des élections.
Oui, oui.
Donc il n'est pas rare de voir qu'il y a des insuffisances.
Oui.
Et ces insuffisances donc peuvent être servies, n'est-ce pas, de prétexte.
Oui.
Pour celui qui veut contester les élections. Vous avez par exemple le fait également qu'il y a un déficit de confiance.
Oui, oui,
non seulement
oui.
entre les acteurs politiques, mais déficit de confiance vis-à-vis des institutions de l'État.
Exactement.
Donc, ça fait
oui,
également
oui.
que, comme vous le voyez par exemple au Mali, le candidat Soumaïla Cissé conteste les résultats,
oui.
mais ne va pas vraiment devant la Cour constitutionnelle
oui.
pour laisser donc le juge du contentieux électoral gérer,
n'est-ce
pas, les désaccords. Et donc, Ce manque de confiance vis-à-vis des institutions augmente également les contestations que nous observons. Et je peux ajouter un dernier élément. Il y a le fait que nous faisons toujours comme si on était surpris par l'organisation des élections. Et donc, vous voyez au Mali, c'est pratiquement les dernières semaines qu'on a tenté de distribuer les cartes, qu'on n'a pas fini de distribuer jusqu'au jour des élections.
Oui.
Vous venez au Sénégal l'année dernière, c'était à peu près la même chose. Vous allez au Ghana, pourtant modèle, n'est-ce pas, de démocratie en Afrique de l'Ouest. Bon, donc, c'est comme si on ne se prenait pas à temps dans la préparation des élections. Et finalement, ça sert de prétexte donc pour ceux qui veulent contester les élections, les résultats.
Mais alors, est-ce qu'on peut dire qu'au Zimbabwe et au Mali, hein, les deux pays où se sont déroulées dernièrement des élections présidentielles, est-ce que pour vous, ces élections ont été crédibles?
Une fois encore, c'est relativement difficile à dire. Par exemple, si vous prenez un pays comme le Mali, vous savez qu'il y a une partie du pays où on ne peut pas organiser les élections. Par exemple, pour le premier tour, on parlait de plus de 700 bureaux de vote qui n'avaient pas pu fonctionner. Et donc, on parlait de 4 électeurs qui n'ont pas été complètement distribués jusqu'au jour des élections. Et donc, je pense que quand vous mettez ces éléments ensemble, c'est très difficile de savoir si, par exemple, on a pu vraiment manipuler ou si ce sont les insuffisances seulement qui ont entaché, n'est-ce pas, la qualité des élections.
D'accord.
Donc, c'est très difficile, même lorsque vous êtes sur le terrain, de pouvoir dire si parfois les critiques à l'endroit du processus sont fondées ou non.
Alors, Nelson Chamisa, Soumaïla Cissé et d'autres avant eux évoquent souvent des fraudes et des bourrages d'urnes, par exemple. Est-ce que c'est une pratique qui existe encore aujourd'hui, selon vous, ou devient-elle rare, de plus en plus rare en Afrique?
Je crois que ça existe toujours, parce qu'il y a toujours des poches de marge de manœuvre qu'on peut utiliser pour ça. Mais je dois dire que ça diminue de plus en plus.
Ouais.
Je vais partager quelques statistiques avec vous. Vous savez que, par exemple, pour l'Afrique de l'Ouest, que je connais très bien, de 2015 à aujourd'hui, on a organisé 12 élections présidentielles. Et sur ces 12 élections présidentielles, il y a 7 pour lesquelles le parti sortant ou le candidat sortant a perdu.
Oui.
Disons qu'il y a 15 ans ou 20 ans, c'était inimaginable en Afrique que vous soyez au pouvoir, que vous organisez les élections, que vous les perdiez. Ça veut dire que, de mon point de vue, il y a quand même une amélioration de la qualité de l'organisation des élections.
Oui.
Il y a d'autres facteurs, mais quand même, je crois que la marge de manœuvre en matière de fraude est en train progressivement de se réduire.
C'est-à-dire qu'il est de plus en plus difficile de truquer des élections aujourd'hui. La société civile, les responsables politiques en Afrique sont de plus en plus vigilants, c'est ce que vous dites.
Absolument. Et l'utilisation des nouvelles technologies de l'information font que, par exemple, des organisations de la société civile, ainsi que les grands partis politiques ou les grands candidats sont en mesure, le soir des élections ou le lendemain, d'avoir les résultats, de les centraliser eux-mêmes et donc d'avoir une idée, n'est-ce pas, s'il y a eu fraude ou non. Et donc, je pense qu'il y a de moins en moins de marge de manœuvre de ce point de vue-là.
Alors, ces élections sont contestées alors qu'il existe des missions d'observation internationales chargées de les surveiller. Pour vous, ces missions sont-elles utiles et pourquoi n'arrivent-elles pas à légitimer ces scrutins?
Disons que les missions sont utiles.
Oui.
Parce que, vous savez, c'est le déploiement de personnes qui ne sont pas nationales, donc qui sont des personnes étrangères. Leur présence dans les bureaux de vote qu'ils visitent constitue nécessairement un facteur de dissuasion pour ceux qui voudraient le jour du vote ou pendant la phase de centralisation, ceux qui voudraient manipuler le processus. Par contre, ils sont toujours limités.
Oui.
Limités géographiquement parce qu'en règle générale, ils ne sont pas capables de couvrir un échantillon représentatif de bureaux de vote.
Oui.
Et ils sont limités parce qu'ils ne couvrent pas nécessairement toutes les phases du processus électoral.
Oui.
De sorte que il faut prendre leurs déclarations et leurs rapports pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire que c'est une vue parcellaire du processus électoral, mais un témoignage qui peut être utile parce que fait par des acteurs extérieurs et leurs rapports peuvent être utiles dans la phase post-électorale pour inspirer des réformes.
D'accord.
Et donc voilà, donc c'est toujours utile, mais il faut comprendre que c'est quand même limité et il faut en tenir compte dans l'utilisation qu'on peut faire, n'est-ce pas, des observations faites par ces missions.
Par ces missions. Restez avec nous, Mathias Umke. Merci beaucoup de réagir depuis Dakar au Sénégal. Vous êtes politologue, administrateur du programme de gouvernance politique au sein de la Fondation Oziwa. On vous retrouve d'ici quelques minutes, mais nous allons prendre plusieurs auditeurs. Nous avons en ligne Abdel Wassi qui nous appelle depuis Montréal au Canada. Bonjour.
Oui, bonjour Nadir.
Bonjour.
D'entrée de jeu, je salue notre expert politologue, oui. Mathias Onkwe. C'est un monsieur qui connaît vraiment sa matière. Et je crois que si les présidents africains l'écoutent même, ça va apporter beaucoup plus à l'Afrique, les élections surtout, oui. Et dans la démocratie. C'est toujours un plaisir pour nous de l'écouter.
Merci.
Cela dit, je déplore vraiment que l'Afrique reste toujours à ce niveau, malgré les avancées que nous notons.
Oui.
Parce qu'aujourd'hui, c'est fait en sorte que les dépouillements des élections sont faits au bureau de poste.
Oui.
Donc, les gens ont les éléments affichés devant tout le monde.
Oui.
Je ne comprends pas pourquoi les opposants ou certains sont faciles à vouloir. Ils contestent.
Oui.
Même pas à prendre les moyens, les moyens légaux, mais ouais. Ils contestent juste pour exciter les pauvres paysans,
oui.
pour les exciter à des révoltes.
D'accord.
Parce qu'après, oui. à moins de choses, ils ne sont pas là pour contrôler la foule,
oui.
mais il y aura le mal d'ailleurs qui sera déjà parti,
oui.
et c'est la population
oui.
qui perd des vies pour rien du tout.
Ce que vous dites, c'est une stratégie hein, de la part des opposants de contester les élections, alors qu'ils ont du mal à fournir des preuves, c'est ce que vous voulez dire?
Exactement, c'est une ouais. mauvaise stratégie, alors qu'ils n'ont pas les frais fournis, ils le crient pour le crier seulement.
Oui.
C'est dommage, même des intellectuels, imaginez l'opposant du Mali, oui. qui a géré la CRC au niveau de la CDAO tout le temps, c'est lui qui va se permettre encore aujourd'hui.
Oui.
Comme si, s'ils n'ont pas la présidence, ils n'ont plus rien, donc c'est comme si c'était la fin du monde pour eux. Alors qu'ensemble, ils peuvent gérer les pays, nous savons où se trouve chacun de nos pays
oui.
aujourd'hui.
Oui.
Regardez le Gabon, depuis ce temps-là,
oui,
ils sont
oui.
là, on n'est pas avancé, on
Exactement.
Fait des
décrets, oui, effectivement.
On fait des populations pour rien. Mm. Alors que le temps ne s'arrête pas.
D'accord.
C'est dommage que l'Afrique ne prend pas des espérances sur les autres, sur les bonnes choses.
D'accord.
Mais on est là toujours à tirer dans la mauvaise côté.
Très bien.
Merci beaucoup pour l'intervention.
Merci beaucoup Abdel Wassi d'être intervenu depuis Montréal et on salue hein, tous les auditeurs qui nous écoutent sur le continent américain. Nous avons en ligne Manga Souba, bonjour. Allô.
Bonjour.
Bonjour oui, monsieur. Oui, bonjour, on vous écoute.
Oui, bonjour. Je voulais participer au niveau des élections au Mali.
Oui.
Surtout les revendications des victoires au Mali.
Oui.
Je pense que M. Cissé, il a violé la loi du Malien.
Oui.
Parce que si...
Soumaïla Cissé n'a pas encore revendiqué sa victoire. Hein.
Bien sûr, ils ont déjà fêté au Mali. On regarde les journaux, on a écouté la radio privée au Mali.
Oui.
Soumaïla même qui l'a parlé au niveau des victoires. Voilà.
Oui.
Si c'était les partisans qui avaient revendiqué cette victoire, on peut se comprendre parce que chacun il veut que leur parti qui soit au pouvoir.
Oui.
Mais en tant que Soumaïla même est responsable du pays, on peut dire est responsable du pays.
D'accord.
Mais si lui-même qui a revendiqué cette victoire, donc c'est-à-dire il a une intention de plonger au Mali dans les crises.
Oui.
Il faut qu'il attende d'abord les résultats officiels. Si
d'accord.
il n'est pas d'accord, ils vont rajouter, ils vont rejeter. Mais
d'accord.
c'est pas comme ça qu'ils devraient faire.
D'accord.
Parce que à chaque fois, nous les Maliens, on dit que les politiques, ils sont tous pareils, bon, les maires qui gagnent, voilà, c'est ça qu'on dit.
D'accord.
Mais il ne faut pas qu'ils revendiquent depuis à l'endemain d'élection. Donc,
d'accord.
Là, ça veut dire qu'ils ont violé la loi.
D'accord. Bon,
j'ai une question à poser à Ras Bach, qui est principal soutien de Soumaïla.
Oui.
Lui, à chaque fois, il parle des violences de la loi au Mali.
Oui.
Même ils ont parlé quand il y a cet électeur au Malien.
D'accord.
C'est-à-dire quand tu donnes l'argent à quelqu'un pour voter pour toi, tu risques de prison,
oui.
10 ans à 10 ans de prison. Donc là, je veux qu'il se réagisse au niveau de Soumaïla qui a revendiqué les victoires avant des prononces de l'État.
D'accord.
Donc, j'attends leur réponse.
Très très bien. Merci beaucoup Manga Souba pour votre intervention. Nous retournons à Dakar. Retrouver notre invité Mathias Oumke, politologue, administrateur du programme de gouvernance politique au sein de la Fondation Oziwa. Pour rebondir sur ce que disait notre premier auditeur Abdel Wassi concernant le fait que ceux qui critiquent hein, les résultats et les opposants doivent fournir des preuves. Est-ce que là aussi il y a une difficulté de fournir des preuves lorsqu'on conteste une élection, lorsqu'on conteste le résultat d'une élection?
normalement, il ne devrait pas avoir de difficultés.
Oui.
Parce que dans quasiment tous les pays, les codes électoraux permettent aux représentants des candidats d'être à toutes les étapes du processus électoral.
Oui.
Donc, il devrait être en mesure, n'est-ce pas, de documenter les insuffisances qui, de leur point de vue, pourraient entacher la qualité des résultats.
Oui.
Et donc, les porter devant le juge du contentieux électoral. Ce qui arrive souvent, c'est que la plupart des candidats, parfois des candidats qu'on considère comme candidats majeurs, ne sont pas en mesure d'avoir des délégués à toutes les étapes du processus.
Oui.
Vous pouvez vous rendre compte que, par exemple, dans un pays comme le Mali, vous pourrez être surpris de vous rendre compte que peut-être que Soumaïla Cissé n'a pas de représentants dans tous les bureaux de vote.
Oui,
et
oui.
Donc, si vous n'avez pas de représentants dans tous les bureaux de vote, il devient difficile pour vous de pouvoir apporter des éléments de preuve crédibles. Sinon, au jour d'aujourd'hui, une fois encore, l'évolution des nouvelles technologies permettent de facilement documenter des insuffisances. Il y a eu des élections au Nigeria il n'y a pas longtemps où on a pu avoir des vidéos, n'est-ce pas, d'achat de vote ou d'achat d'électeurs sur les lieux de vote, etc. Donc aujourd'hui, c'est relativement plus facile de documenter, n'est-ce pas, des insuffisances qui pourraient avoir lieu sur le processus électoral, quoi.
Mmh.
Et donc je pense que s'il y a un effort à faire, c'est aider les candidats, aider les partis politiques à pouvoir déployer des délégués, des observateurs tout le long du processus.
Ouais.
Ceci réduit considérablement les marges de manœuvre de ceux qui pourraient tenter de frauder.
D'accord. Alors, est-ce que le fait de contester les résultats des élections présidentielles fragilise celui qui est élu? On le voit par exemple avec le Zimbabwe où Emmerson Mnangagwa a dû repousser son investiture qui était prévue dimanche.
Voilà, ça dépend des contestes.
Ouais.
Vous voyez par exemple lorsque vous êtes au Mali et l'écart énorme qu'il y a eu entre les deux candidats, les deux premiers, au premier tour, des contestations aujourd'hui passeraient difficilement et entacheraient difficilement la légitimité de celui qui est élu. Par contre, si vous êtes dans un environnement où le jeu est relativement serré, avec une cour qui est relativement crédible, il est possible que les contestations puissent avoir un impact sur la légitimité, etc.
D'accord.
Je pense que la mesure, la précaution que prend Mnangagwa au Zimbabwe, c'est surtout pour laisser le juge du contentieux électoral traiter, n'est-ce pas, des cas avant d'aller à l'investiture.
Mmh. Mais est-ce que le résultat pourra être accepté? Parce que vous le disiez au début de l'émission que le Conseil constitutionnel et les instances politiques des pays sont souvent contestées. Il y a un décalage entre ce que disent ces institutions et l'opinion publique, une partie de l'opinion publique.
Je suis complètement d'accord avec vous. Mais dans le même temps, vous voyez qu'on a commencé à sentir une sorte de changement chez les acteurs politiques, qu'on peut expliquer de diverses manières. Vous voyez que ça a commencé avec le Kenya, où pour une fois, la preuve a été donnée qu'en réunissant des preuves assez solides, il est possible d'obtenir que la Cour, par exemple, annule complètement des résultats d'élection. Et vous avez vu par la suite, en Sierra Leone, au Liberia, on a fait recours, n'est-ce pas, à la Cour suprême pour aider de trancher le contentieux. Donc je crois que petit à petit, il y a un peu comme un changement de ce point de vue où on sent maintenant que les acteurs sont prêts à aller devant les juridictions, n'est-ce pas, en charge de la gestion du contentieux électoral. Ce que tout le monde souhaiterait.
D'accord.
Mais ceci ne peut être crédible que si c'est accompagné de la documentation, n'est-ce pas, des preuves.
Alors nous allons prendre des auditeurs. Nous avons en ligne Sekou. Sekou, bonjour. Allô, Sekou ?
Oui, allô, vous m'entendez ?
Oui, on vous entend, Sekou. Bienvenue.
Oui, ouais, merci. Moi, je voudrais réagir, en fait, sur la politique en général en Afrique.
Oui.
Si on demande aujourd'hui à certains partisans de certains partis politiques de citer le programme de leur chef de file, il n'y en a aucun qui pourra dire « Ouais, il va faire ça, avec ça, avec ça ». Non.
D'accord.
Ils sont tous derrière un homme. On ne sait pas pourquoi. Et quand on leur demande pourquoi ils sont derrière lui, ils ont leur intérêt personnel peut-être ou ils ont un autre intérêt.
Oui.
Mais il n'y a personne qui est capable de dire quel est le programme d'un tel. On met toujours, même dans les journaux, on met toujours en avant le monsieur Ibeka ou autre. Mais j'ai jamais entendu parler du programme de Ibeka. Qu'est-ce qu'il va faire? Avec quels moyens? Et ni de Soumaïla Cissé, qui est son principal opposant.
D'accord.
Et après, par rapport aux élections, et on peut, il y a quand même un peu de suspicion, un peu de vol qu'on a vu en Guinée et aussi pendant les élections locales. Oui. Où il y avait des militaires qui bloquaient les assistants pour pas qu'ils fassent le dépouillement.
D'accord.
Donc ils prenaient les casernes d'urne et ils partaient. On a vu des vidéos de ça sur Internet.
Oui.
Donc même si aujourd'hui ils sont arrangés entre eux, puisque c'est un pays où on s'arrange, il y a quand même un peu de vol dans les pays africains parce que c'est comme ça.
D'accord.
Mais surtout, ce que je mets en avant, c'est qu'il n'y a pas, il y a personne derrière un programme. On ne sait pas le programme d'un tel, on est toujours derrière un homme.
Ouais.
Par exemple, Bemba, il vient de sortir de prison.
Ouais.
Ils sont tous derrière lui, enfin la plupart.
Oui.
Et on ne sait pas qu'est-ce qu'il propose. Qu'est-ce qu'il va proposer ? Qu'est-ce qu'il propose pour le Congo, par exemple ?
Oui, il a un programme. Hein. Il a annoncé, d'ailleurs, un de ses représentants a développé un peu son programme lorsque nous l'avons interrogé il y a une dizaine de jours.
Ah, bah, je l'ai pas vu, désolé.
C'est pas grave, c'est cool. Merci pour votre intervention. Nous avons en ligne Marco. Marco, bonjour.
Oui, bonjour Nadir.
Bonjour Marco.
Alors, moi, mon intervention, ça se situe sur les élections vraiment en Afrique. Hein. Voilà, moi, je constate que chaque fois qu'il y a des élections, il n'y a que des morts. Il n'y a que des morts.
Des violences, oui, il y a eu des violences. Enfin, pas souvent, mais il y a eu, malheureusement, c'est vrai, dans certains pays, notamment le Zimbabwe, des violences après les élections, oui.
Mais ce n'est pas que le Zimbabwe, mais depuis l'histoire des élections en Afrique, il n'y a que des morts. La police tue des gens et voilà, on est fatigué. Donc je pense que nous devons repenser, nous, notre démocratie, nos élections, à notre façon. C'est-à-dire quoi ? Quand on sait qu'il y a des bourrages des urnes et que chaque fois que il y a une personnalité qui est adulée par tout le monde, il ne veut plus lâcher le pouvoir, tout ça c'est compliqué, on va faire maintenant des élections tournantes, supervisées par des hauts conseils, des sages, je ne sais pas, mais il faut qu'on invente quelque chose qui fera que on ne se livrera plus à tout ce qui est massacre et tout ça, parce que c'est inutile finalement. Regardez par exemple en Côte d'Ivoire, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas, en 2010, quand les adversaires ils se sont opposés et que Babou a demandé le recomptage des voix, on a dit non, il ne faut plus qu'on recompte. Donc finalement, on ne parle même plus d'élection. On fait une présidence tournante et puis chacun son tour, il gouverne et puis tout ça est supervisé par un haut conseil. Si vous n'avez pas tellement bien gouverné, ok, d'accord, on va donner le relais peut-être à un petit parti, je ne sais pas, un représentant d'un petit parti, et puis chacun son tour. Et puis, on ne fera plus même des élections. Ça, je pense que si on s'habitue à ça, que c'est ancré dans nos mœurs, je pense que finalement, on trouvera le bon modèle, on va plus améliorer ça, et puis ça va passer. Je pense que moi, pour moi, c'est ce que je vois finalement. Parce que, voilà, on tue déjà une dilemme.
Très bien. Merci beaucoup, Marco, pour votre intervention. Nous retournons à Dakar avec notre invité, Mathias Umke, politologue, administrateur du programme de gouvernance politique au sein de la Fondation Oziwa. Alors, Mathias Umke, vous avez entendu plusieurs auditeurs et on a entendu Sekou, par exemple, qui disait il y a toujours du vol dans des élections en Afrique. Il faut changer les mentalités, selon vous, pour éviter la suspicion à chaque fois qu'il y a une élection, notamment présidentielle, en Afrique.
Non, je pense que il faut travailler à améliorer la capacité technique des organes de gestion des élections. Il faut travailler à, par exemple, réduire l'emprise des politiciens sur les organes en charge des élections. Vous savez que pour la gestion des élections en Afrique, vous avez au moins deux catégories, n'est-ce pas, de commissions ou bien d'organes.
Oui.
Vous avez des organes qui sont indépendants et vous avez des organes qui sont un peu comme partisans.
Oui.
En ce sens que les membres, n'est-ce pas, de ces commissions électorales sont désignés par des politiciens. Et donc, ce qui augmente la suspicion et ce qui crée des problèmes pour le fonctionnement de ce genre de commission. Donc, je pense qu'il y a des efforts à faire pour améliorer l'organisation technique, améliorer l'indépendance, n'est-ce pas, des organes en charge des élections et améliorer l'indépendance des juges du contentieux électoral. Et je pense que petit à petit, on va quand même aller vers des situations où les élections seront moins tendues, il y aura moins de contestations. Je voudrais quand même donner encore des statistiques pour montrer que, en revenant encore à l'Afrique de l'Ouest, que je connais mieux que les autres pays, je disais tout à l'heure qu'en 2015 et 2018, on a organisé 12 élections présidentielles.
Oui.
Vous savez que sur les 12, il y a 8 pour lesquelles le perdant a appelé le gagnant et le félicité, parfois avant qu'on ne donne les résultats. Ça veut dire que la contestation, c'est vrai, que ça continue d'exister. Mais là également, je pense que ça diminue. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile pour chacun de connaître quand même les résultats et de savoir s'ils ont perdu ou non.
Cependant, il y a aussi, vous disiez qu'aujourd'hui, les sociétés civiles, les responsables politiques sont vigilants, mais ils sont vigilants aussi avant même une élection. Par exemple, lorsqu'il y a un responsable politique, un président qui souhaite modifier la Constitution, ou comme récemment, par exemple, au Bénin, où il y a une proposition de réforme du code électoral qui suscite la polémique. Au Bénin, pour être candidat à la présidentielle, il faudra débourser une caution de 150 millions de francs CFA.
Non, je pense que j'espère, parce que le test est toujours à l'Assemblée nationale, j'espère qu'au moment où ça va être adopté, ils vont retirer ce genre, n'est-ce pas, de caution qu'ils demandent, qui, de mon point de vue, est ridicule, quoi. Et donc, je pense qu'on ne devrait pas aller dans le sens où il faut maintenant être riche pour pouvoir être candidat pour les élections dans nos pays. Et donc, je pense que, mais c'est aussi le contre-coup de ce que les élections sont de mieux en mieux organisé. Vous voyez, ce que ceux qui sont au pouvoir essaient de faire maintenant, c'est d'éliminer par anticipation les candidats, les compétiteurs, ceux qui sont les adversaires crédibles. On essaie de les éliminer parce qu'on n'est plus en mesure de manipuler les résultats.
D'accord.
Si, étant au pouvoir, on était en mesure facilement de manipuler les résultats, on peut aller en compétition avec n'importe qui. Et donc, ce qui se passe de plus en plus maintenant, et ce que je dis, vous l'observez au Nigeria, vous l'observez en partie au Bénin, vous l'observez en partie au Sénégal. Donc, dans la plupart des pays aujourd'hui, ce qu'on a observé en partie au Niger, donc vous voyez que celui qui est au pouvoir essaye de disqualifier, n'est-ce pas, ceux qui sont ses compétiteurs crédibles
avant les
élections.
Avant
les élections. Exactement. Et pour moi, c'est peut-être la preuve qu'on sait qu'on ne peut plus manipuler facilement les résultats et il vaut mieux ne pas avoir de compétiteurs.
Nous allons prendre Mamadou. Mamadou, bonjour. Allô. Oui, bonjour Mamadou.
En fait, je voulais vous dire, je ne sais pas si vous connaissez le dicton qui dit « soit tu es prêt, vous êtes avec moi ou bien vous êtes contre moi ».
Oui.
J'ai dit ça... Je dis ça, c'est pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, les élections, on ne peut pas les truquer. C'est tellement difficile de truquer les élections. Mais je trouve qu'on a tellement de mauvais perdants en Afrique qu'aujourd'hui, c'est ça qui nous trouve dans tout ça là.
D'accord.
Parce que avec toutes les histoires de téléphone portable, les décomptages de bureau de vote par bureau de vote, automatiquement, vous envoyez ça à la commission que vous avez eue. Ici, il n'y a pas de CNI. C'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections ici. Donc, à un moment donné, soit tu as confiance, tu vas aux élections, bien sûr, si tu n'as pas confiance, tu n'y vas pas. Donc, moi, je trouve que avant d'aller aux élections, il faut faire signer une charte à tous les candidats. Soit vous avez confiance à 100% à la commission, ou bien si vous n'avez pas confiance, vous vous retirez. Parce que ça ne sert à rien à chaque fois de dire c'est moi qui ai gagné, c'est pas moi qui ai gagné. Aujourd'hui, bon, je ne veux pas parler de Soumaïla Keïta. Comment il peut dire que... Soumaïla Cissé, il a perdu les élections sans savoir ce qui s'est passé déjà. Donc, arrivé à un moment donné, il faut arrêter, quoi.
D'accord.
Soit il faut être réaliste ou bien dire ce qui se passe réellement.
Très bien.
Parce qu'après, c'est les pauvres enfants qui payent.
D'accord. Merci Mamadou pour votre intervention. Voilà. Merci d'être intervenu. Nous avons en ligne Antonio. Antonio, bonjour.
Oui, bonjour.
Allô?
Allô?
Oui, on vous écoute, Antonio. Bonjour.
Ouais, en fait, bonjour à toute l'Afrique et à tous les Africains et Africaines. Moi, ce que je voulais dire, je suis angolais.
Oui.
Les problèmes, je voulais dire à tous les Africains, Africaines, de savoir la politique d'aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Il y a déjà presque plus de 50 ans passés, depuis que nos pays africains commencent à prendre l'indépendance. Il y a toujours, quand il y a l'élection, il y a l'autre qui gagne, il y a l'autre qui dit que l'élection était triquée. Quand on dit l'élection est triquée, et qu'est-ce qu'on fait? Les pays restent un peu paralysés. Quand il est paralysé, le gouvernement qui a dit que moi j'ai gagné, il va travailler. Il va pas lutter les pays, il va travailler. Et l'opposition, qu'est-ce qu'il fait? Il est là, toujours à demander le peuple d'aller manifester. Et quand le peuple va manifester, et il gagne l'argent chaque mois, parce qu'il y a premier président, il y a deuxième, même tu as perdu, tu as tout le droit de ton salaire. Donc, et ils gagnent leur salaire avec leur famille. Mais nous, les peuples, pensez à nous, peuples africains. Pensez aujourd'hui, tous les peuples africains, je vous dis aujourd'hui, pensez, tous nos présidents, là, c'est la politique qui fait, ce sont que les mensonges à nous tromper. On va l'envoyer tous d'aller travailler.
D'accord.
Gagner ou perdre, perdant ou quoi là, aller travailler ensemble avec l'autre, entendre. Parce que quand aussi ils travaillent tous ensemble, même si tu as perdu aujourd'hui, mais tu vas aller travailler dans la poste où là on va vous montrer travailler.
D'accord.
Sans faire les chamailles ou les discussions ou quoi là, qu'est-ce qui va passer?
D'accord.
Les pays vont se calmer, les pays vont marcher, il y aura du travail, il y aura tout le monde là. Parce que nous, on dit, si tu veux connaître ton ennemi, il faut aller proche de lui, aller travailler avec lui.
Très très bien.
Et là, il va voir que donc, il y a des solutions de te tromper.
Merci. Merci beaucoup Antonio pour votre intervention. On va donner le mot de la fin à notre invité Mathias Humke depuis Dakar. Alors Mathias Humke, vous êtes plutôt optimiste concernant la tenue des élections en Afrique aujourd'hui.
Absolument. Donc je pense qu'il y a des difficultés qui demeurent et par endroits, mais je pense qu'on est sur le chemin et que petit à petit, comme je crois que tout le monde l'a pratiquement reconnu ici, il y a de moins en moins de possibilités de fraude.
Oui.
On a juste besoin maintenant de s'assurer que les acteurs politiques, les partis politiques et candidats ont les moyens de suivre le processus, de documenter les insuffisances. On a besoin que les juges du contentieux électoral fassent mieux leur boulot. Et je pense que les élections, petit à petit, vont présenter moins de difficultés pour nos pays.
Quand Mamadou parlait de mauvais perdants, est-ce que vous acceptez ce terme, par exemple, pour ceux qui contestent les élections?
Oui, c'est possible. C'est possible. On ne peut pas écarter la mauvaise foi.
Ouais.
Parfois, c'est très difficile. Quand vous voyez ce qui est investi dans les élections, c'est très difficile pour les perdants d'accepter qu'ils ont perdu. Et parfois, en protestant, ils ont peut-être des moyens de négocier, n'est-ce pas, derrière la scène, voilà, un certain nombre de compensations pour atténuer, n'est-ce pas, le poids.
Merci. Merci Mathias Humke d'être intervenu dans ce journal des auditeurs. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du JDA.